Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Info Club Sandwich, votre émission d'actu locale et associative. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 novembre et c'est la journée mondiale de la philosophie. Pour cette journée, je suis accompagnée de Lino qui est en stage avec nous cette semaine. Salut Lino.
Salut tout le monde. Enfin,
oui. Comment tu vas?
Je vais bien et toi?
Ça va, tu apprends plein de choses?
Oui, franchement j'adore être ici à Radio Campus.
Et donc tu es en troisième?
Oui.
Cette année, et tu es en stage d'observation et tu m'accompagnes à la technique pour cette émission aujourd'hui.
Oui, voilà, c'est moi qui fais la technique.
Alors, pourquoi est-ce que je vous ai parlé de philo dans l'introduction? Eh bien parce que c'est l'occasion pour moi de vous raconter un petit peu ma vie. Bon, enfin un événement plutôt où j'étais présente, j'ai nommé les rencontres philosophiques Michel Serre. Alors c'est pas du tout un événement local, puisque ce festival il se déroule à Agen, au pays du magret de canard et de la chocolatine. Donc, vous vous demandez encore pourquoi j'en parle? Eh bien, tout simplement parce que je suis allée à la rencontre d'une autre Radio Campus, le Radio Campus 47, qui ont un bus sur place pour faire directement les interviews sur le lieu du festival. Donc, c'était déjà la 4e édition, et la thématique de cette année, c'était « Et maintenant, on fait la paix ». Donc le principe du festival, c'est on prend un ouvrage de Michel Serre et est organisé ensuite une série de conférences en lien avec une thématique. Et cette année, donc, c'était autour de la paix. Il y avait de nombreux et nombreuses invités, comme des philosophes, des personnalités politiques et même des journalistes. Et vous allez voir, j'ai bien travaillé ma transition, car l'interview que je vais vous diffuser aujourd'hui, c'est celle de Pierre Aski. Journaliste depuis maintenant 50 ans, il a couvert pendant de nombreuses années le conflit israélo-palestinien et il possède maintenant même sa chronique à France Inter où il nous parle de géopolitique. Donc il était présent aux rencontres philosophiques Michel Serre en tant que coprésident avec la philosophe Manon Garcia et il était là pour faire une conférence autour de son livre « Une terre doublement promise, Israël-Palestine, un siècle de conflit » qui est paru aux éditions du Stock. Je vous propose donc d'écouter une partie de son interview qui a été réalisée par Sam de Campus 47.
RC47. Vous êtes bien sur Radio Campus 47, c'est Sam au micro et je suis en compagnie de Monsieur Pierre Aski. Comment allez-vous?
Bonjour, très bien, merci.
Je suis aussi épaulé par Radio Campus Amiens. Colline, comment vas-tu?
Salut Sam, ça va très bien et toi?
Moi ça va, franchement je suis un petit peu stressé pour l'interview.
On t'a préparé
Il n'y a pas de raison, ça va bien se passer.
Qu'est-ce que vous remarquez, qu'est-ce qui a le plus changé pour vous dans le journalisme international au cours des deux dernières décennies?
L'émergence des réseaux sociaux, qui est sans doute la chose qui a transformé le plus la manière dont l'information circule dans le monde. Et vous savez, c'est assez phénoménal, mais moi j'ai commencé dans le journalisme il y a 50 ans. Je viens de passer mes 50 ans de journalisme, je suis sorti de l'école de journalisme en juin 1974 et nous sommes en 2024, donc ça fait 50 ans. Et quand je regarde ces 50 dernières années, Il y a deux choses qui ont changé. La première, c'est la technologie. Quand j'ai commencé, on tapait à la machine avec des feuilles, avec du carbone. Et ensuite, c'était retapé par des clavistes parce que j'étais en presse écrite. Quand j'ai commencé, j'étais à l'agence France Presse. J'étais dans une grande salle de rédaction. On tapait donc à la machine avec des carbones. Et les copies partaient dans les différents services par des systèmes de pneumatique. Ça ne vous dit strictement rien. Mais il y avait des tubes en plastique qui sillonnaient le plafond de la grande salle où on était. Et donc le rédacteur en chef corrigeait ma copie, il mettait ça dans un tube, qui mettait ça dans un grand tube avec un numéro qui était le destinataire, et ça faisait poup, et ça partait à l'autre bout de la salle ou dans un autre étage par ce système de tuyaux en plastique. Et donc toute la journée, vous entendiez poup. C'était les pneumatiques qui partaient d'un service à l'autre. Vous vous rendez compte de l'archaïsme? Et c'était quand on rentrait dans cette salle, on disait putain, c'est vachement moderne, c'est incroyable, il y a des tuyaux en plastique partout. Donc c'est peut-être la plus grande révolution, c'est celle de la technologie, parce que non seulement pour produire notre information, on a des moyens qui sont très différents, et de l'instantanéité, etc. Mais aussi, ce qui est la plus grande révolution, c'est le fait que tout le monde a accès à ces technologies. Vous avez un smartphone dans la main, bah vous êtes émetteur d'informations. Et même quand vous retweetez quelque chose ou vous relayez un post Facebook ou Instagram ou autre, vous êtes un émetteur d'informations. Et ça, c'est quelque chose qui a transformé tout. Parce que les journalistes n'ont pas le monopole de l'information aujourd'hui, puisque les acteurs de l'information eux-mêmes communiquent. Vous êtes un combattant dans une des guerres multiples de cette planète. Bah, vous pouvez communiquer à la Terre entière ce que vous vivez, ce qui se passe, et vous court-circuitez le journalisme et avec... quelle véracité, quelle vérification, quelle crédibilité. Tout ça, cette planète est devenue beaucoup plus compliquée à cause de ça, parce que dans ces circuits-là, on peut dire que c'est une grande avancée de la liberté d'avoir que tout le monde puisse communiquer, etc. Mais aussi, vous avez des gens qui introduisent dans ce circuit des fausses informations, de la manipulation de l'information, et donc il y a des pièges absolument colossaux qui finissent par introduire de la confusion. Et c'est là le vrai danger de notre monde aujourd'hui, c'est que la sphère de l'information est devenue un champ de bataille. Et donc c'est ce qu'on a vu apparaître au cours des deux dernières décennies, essentiellement au cours de la dernière.
Et justement, par rapport à cette évolution de la couverture médiatique, comment est-ce que vous analysez du coup cette évolution sur la question israélo-palestinienne depuis ces dernières années, et en quoi est-ce que vous pensez que ça influence l'opinion publique internationale ?
Alors, vous savez, dans tous les conflits, vous avez à la fois des racines profondes et des données, j'allais dire, immuables. Et dans le conflit israélo-palestinien, il y a des données immuables qui sont celles de l'histoire, qui sont celles des guerres, qui sont celles des situations sur le terrain. Et puis vous avez des facteurs qui influencent différemment et l'information est aujourd'hui un de ces facteurs, parce que le conflit israélo-palestinien, il se traite à plusieurs niveaux. Il se traite par les acteurs sur le terrain, ceux qui se battent ou qui se parlent parfois, et il se traite aussi sur la scène internationale globale. Et on voit bien que ce qui s'est passé ces derniers jours à Amsterdam, par exemple, vous avez une bataille de récits entre ceux qui disent blanc et ceux qui disent noir. Et allez vous faire une opinion là-dessus. Mais ça joue aussi sur la vision globale qu'on peut avoir de ce conflit quand on est à l'extérieur, en France, aux Pays-Bas ou au Brésil ou en Afrique du Sud. C'est ça qui est compliqué à gérer, je pense, pour les journalistes comme pour les acteurs politiques de toutes ces histoires, c'est que vous avez le conflit local et vous avez la bataille d'influence internationale. Et cette bataille d'influence, elle va jouer sur quoi ? Elle va jouer sur le vote à l'ONU, elle va jouer sur un éventuel embargo sur les livraisons d'armes, sur les pressions sur tel ou tel acteur, etc. Et l'information, c'est le nerf de la guerre dans une histoire comme ça. Et les réseaux sociaux, évidemment, sont utilisés aussi par les groupes de pression d'un côté ou de l'autre.
Et justement, pour vous, existe-t-il encore des pistes viables ? Parce que vous parliez durant votre conférence des accords d'Oslo de 1993. Est-ce que pour vous, il existe des pistes viables pour une solution à long terme ? Ou est-ce que nous sommes vraiment dans un cycle sans fin de violence et de négociations qui sont inachevées ?
Écoutez, la solution, elle est connue. C'est les deux États. Moi, j'en vois pas d'autres. Il y a trois hypothèses. Et c'est pour ça que je dis tout est connu depuis très longtemps. Il y a trois hypothèses. Soit vous avez un seul État. Alors, un seul État avec deux possibilités. Soit c'est un seul État partagé par les deux peuples, à égalité. Mais ça, personne n'en veut. Les Palestiniens veulent leur pays. Et les Israéliens ne veulent pas partager parce qu'ils ont créé Israël pour se protéger après la Shoah, après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ils veulent avoir un État à eux. Donc, personne ne veut de cet État commun. Ensuite, vous avez le statu quo. Statu quo, c'est ni guerre, ni paix, ni deux États, ni un État, mais une occupation, etc. Les Israéliens ont cru pendant longtemps que ça pouvait marcher, qu'en gros, conflit de basse intensité, de temps en temps vous avez un attentat, mais ce n'est pas très grave, et la vie continue. Bon, le 7 octobre a montré que ça ne marchait plus, parce que vous allez vous retrouver avec d'autres 7 octobre, peut-être plus graves, peut-être encore plus violents et plus sinistres, et donc le statu quo est impossible. Donc il ne reste plus qu'une seule solution, c'est la séparation, et c'est les deux États. Sauf que une fois qu'on a dit ça, on n'a rien réglé parce que les deux États sont quasiment impossibles à faire aujourd'hui. Il y a les 450 000 colons en Cisjordanie, il y a les questions de sécurité, etc. Donc et personne non plus n'est prêt à faire les concessions et les compromis qu'il faut. Donc oui, je dirais la solution, elle existe, c'est celle-là, mais c'est le chemin pour y parvenir qui aujourd'hui est bouché et n'est pas tout à fait connu. Et en plus, il y a le climat international qui est quand même très, très inquiétant. C'est que c'est Eli Barnavi, l'ancien ambassadeur d'Israël en France, qui est un intellectuel qui ne représente que lui. Il n'est pas, c'est pas un homme de parti ou de gouvernement, qui disait, il y a quelques mois, il disait... Israéliens et Palestiniens aujourd'hui ne sont pas capables de faire la paix parce qu'il y a trop de haine, il y a trop de conflits, il y a trop d'hostilité. Et donc le seul moyen, disait-il, pour arriver à la paix, c'est qu'elle soit imposée de l'extérieur. C'est que le monde entier, à un moment, dise « Stop, vous pouvez pas continuer à vous battre et à perturber le monde comme ça. » Sauf qu'aujourd'hui, personne ne se met d'accord. Et l'élection de Trump, d'une certaine manière, complique encore plus les choses, parce que Trump va donner la liberté d'action à Netanyahou au lieu d'être un médiateur ou un facilitateur de paix. Et donc, on connaît l'objectif, mais on ne sait pas comment y arriver. Donc, ça rend... peu optimiste à court terme et même à moyen terme. Après, moi, je crois quand même qu'à un moment, il y aura une solution.
Vous avez visité, vous, une première fois, donc en 1973, ça fait plus de 40 ans quand même que vous êtes sur le sujet. Est-ce que vous voyez quand même une évolution ? Est-ce que ça évolue de façon positive ou au final, on reste bloqué sur les mêmes sujets ?
Non, je pense que moi, j'ai vu une évolution négative, pour être très honnête. 1993, c'est très important. C'est-à-dire que c'est la seule fois qu'on a vraiment tenté de faire la paix dans cette région. Vous savez, si on prend 10 photos du XXe siècle, il y aura parmi ces 10 photos la poignée de main entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat à la Maison Blanche le 13 septembre 1993. C'est un moment qui est marqué d'une pierre blanche dans cette histoire parce qu'il y a eu la reconnaissance mutuelle entre les deux peuples. Si vous m'aviez posé la question en 1993, je vous aurais dit, j'ai vu une évolution formidable. En 1973, vous aviez le gouvernement israélien qui disait « les Palestiniens, ça n'existe pas ». Donc en 93, 20 ans plus tard, il y a une poignée de main, on se reconnaît, on existe. Sauf que ça a échoué dans la violence. Rabin a été assassiné, les attentats ont repris, il y a eu la deuxième intifada, bref, il y a eu beaucoup de choses. Et depuis, il y a eu l'impasse. C'est-à-dire que pendant 30 ans, depuis la fin de l'échec des accords d'Oslo, il y a eu une lente dégradation de la situation. Plus de colons, une porte politique de plus en plus fermée. Et là, récemment, depuis un an et demi maintenant, une coalition au pouvoir en Israël qui est très marquée à l'extrême droite. Donc, ça serait impossible de dire que sur ces 40 ans, j'ai vu une évolution positive. Simplement, dans ces 40 ans, il y a eu un moment d'espoir. Ce qui veut dire que l'espoir, il est possible. Et quand il y a eu les accords d'Oslo, il y a eu 6 mois, j'ai vécu peut-être les 6 mois de paix en un siècle d'histoire. Et il y a eu 6 mois, c'est pas beaucoup, mais ça existe. C'est-à-dire que pendant 6 mois, il y avait une majorité d'Israéliens et une majorité de Palestiniens qui ont cru que la paix était arrivée. Qui ont cru, même ceux qui avaient des réserves sur l'accord, qui disaient « j'aime pas tel aspect, j'aime pas telle dimension », était convaincu que la page allait être tournée et qu'on allait passer à autre chose et une autre manière peut-être de faire de la politique, etc., sans la violence et sans la confrontation. Et ça a échoué. Et la conclusion que beaucoup de gens en ont tirée sur place, c'est de dire la paix est impossible. Donc c'est pas la peine, on continue comme avant. Et c'est là que peut-être il y a une erreur fatale, c'est que c'est pas parce que ça a échoué une fois qu'il faut pas recommencer, qu'il faut pas peut-être trouver d'autres voies, d'autres moyens de conclure cette paix. Et c'est là que, puisque la paix est le thème des rencontres Michel Serres cette année, je pense que c'est là qu'il y a une erreur historique qui a été commise, c'est de se dire ça n'a pas marché à Oslo, donc c'est fini.
Colline, est-ce que tu as une question?
Écoute, moi je pense que tout est très clair et tu as très bien fait tes devoirs.
Eh bien, merci.
Sam.
Et merci au grand-père.
Merci Pieraski.
Merci.
C'était donc l'interview de Pieraski, journaliste et auteur du livre Une terre doublement promise, Israël-Palestine, un siècle de conflit. Lino, toi tu as une petite chronique originale à nous partager. Ça n'a rien à voir avec la philosophie, mais c'est un fait plutôt surprenant et intéressant.
Alors oui, j'ai préparé une chronique, on va dire, exprès pour aujourd'hui. Et ça parle de l'origine du fuseau horaire de la France.
Eh ben écoute, on t'écoute.
Ok. Alors avant tout, je dois vous prévenir, je vais parler avec une notion, l'UTC. C'est un sigle anglais, Universal Time Coordinated, qui se traduit en français par temps universel coordonné, en gros, le fuseau horaire d'un pays. Bon, maintenant, on peut commencer. Comme vous le savez peut-être, la France est en UTC plus 1, donc une heure de plus que l'Angleterre. Mais saviez-vous que depuis le 2e siècle jusqu'à la moitié du 20e siècle, la France était en UTC 0, donc pareil que l'ouest de l'Europe, sauf l'Allemagne. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, après que la France s'est fait envahir et que le reste de cette dernière passe un accord avec l'Allemagne, elle est passée d'UTC 0 à UTC plus 1. Après la victoire de 1945, la France est restée avec l'heure de l'Allemagne, UTC plus 1. Depuis, elle a gardé le même fuseau horaire. Voilà, maintenant vous connaissez l'origine du fuseau horaire de la France. Moi je vous dis au revoir et on se revoit plus tard.
Eh bien merci Lino pour cette chronique originale, on a appris plein de choses. Alors comme je l'ai dit en début d'émission, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la philosophie et à Amiens, il y a Cité Philo, dont la thématique est les corps à l'honneur. Alors qu'est-ce que Cité Philo? C'est un événement annuel régional réunissant plusieurs dizaines de conférences et tables rondes gratuites, animées notamment par des chercheurs et experts en philosophie. Organisée dans une quinzaine de villes des Hauts-de-France, Cité Philo, ça vise à encourager la réflexion, à créer des espaces d'échange entre chercheurs et public, et à promouvoir la pensée tout en éveillant le plaisir de la lecture. Alors cette année, l'événement, il est du 1er au 21 décembre. Des conférences, des débats, des ateliers vont interroger notre rapport au corps et à l'esprit. Et parmi les rendez-vous, il y a une promenade philosophique au musée de Picardie le 1er décembre, une conférence sur Descartes le 10 décembre, et les événements, bien entendu, sont gratuits. Il faut juste faire une réservation, puisque, à mon avis, les places sont très très limitées. Les infos et le reste du programme sont à retrouver sur citéphilo.org. Et voilà, Info Club Sandwich, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais l'émission, elle est à retrouver sur le site radiocampusamiens.fr. Et tout de suite, retrouvez l'émission On Débobine sur le Festival International du Film d'Amiens. Mais juste avant, on s'écoute Personality Crisis du groupe New York Dolls.
Oh! enseignants.